Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualités, de transformation digitale et de tech, le tout en provenance des plus grands salons de l'innovation à travers le monde. Le dernier salon de l'année 2023 n'était autre que le Slush de Helsinki, mais production et délai de traitement oblige, vous recevrez cet épisode tout début d'année 2024. L'occasion pour nous, à Lionel et moi-même, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, la santé avant toute chose, mais également toutes les belles réussites que vous pourrez avoir et tous les succès qui seront les vôtres en 2024. Alors nous revenons sur cette édition du Slush de Helsinki 2023 avant d'attaquer la grosse période du CES qui se profile, puisque Lionel et moi-même quitterons la France en fin de semaine, dimanche, pour nous rendre au CES. Dimanche, ce sera le CES Unveiled de Las Vegas avec notamment aussi la journée presse et donc un programme qui s'annonce chargé. Donc on commence l'année en revenant sur le Slush de Helsinki. Alors Lionel, déjà, as-tu survécu au froid, puisqu'il faut quand même rappeler que ces deux jours de salon se tiennent à Helsinki, dans une salle que j'espère chauffée. Alors Lionel, le froid a-t-il eu raison de toi ou non sur le Slush de Helsinki ?
Eh bien écoute, la bonne surprise, bonjour à toutes et à tous déjà, mais la bonne surprise c'est que, on va dire fin novembre, début décembre, puisque ça se tenait le 30 et le 1er décembre, eh bien la température était légèrement plus douce que la semaine précédente. On a eu juste moins 6 degrés plutôt que moins 17. C'était plutôt cool. Voilà.
Alors nous voilà rassurés. Maintenant, la question que j'aimerais te poser pour ceux qui ne connaissent pas le Slush, pourrais-tu nous rappeler sa spécificité, tout du moins la façon dont c'est organisé, quelles sont les thématiques, on y reviendra dans un instant, mais comment est-ce que finalement ce salon s'articule ? Rencontre, conférence, quel est l'objet finalement du Slush ?
Alors déjà, il faut dire que poser les bases, c'est un événement qui est incontournable en termes de rencontre entre start-up et investisseurs. C'est du networking super bien organisé. Nous, on a l'habitude de visiter l'IFA et puis son petit IFA Next. On a évidemment l'habitude de visiter le CES avec son Eureka Park, etc. Mais là, c'est un concept de networking. Dans les salons que l'on visite habituellement, c'est vrai que le networking, il se fait en marge, il se fait donc pendant les soirées, il se fait pendant des espaces qui ne sont pas forcément managés par l'organisateur du salon. Là, c'est une association, c'est à but non lucratif. C'est la 15e édition et c'est véritablement le networking européen qui fait référence entre les investisseurs et les startups. Bien sûr, au sein de tout ça, il y a des, comme tu l'as dit, des conférences thématisées par stage, avec 4 stages, mais autour de ces conférences, bien sûr, c'est les différents exposants et les différents visiteurs sont labellisés, alors pour le coup avec de très très gros badges sur la poitrine pour que l'on puisse voir de très très loin si tu es simplement un visiteur, si tu es une start-up, si tu es un investisseur, etc. Donc c'est vraiment très bien organisé avec une armée de bénévoles qui sont au service des visiteurs, à peu près 15 000 visiteurs, à peu près 3 000 investisseurs pour donner un ordre d'idée sur cette 15e édition. Très belle édition.
On est donc sur un événement qui, au-delà des démonstrations, tout du moins ce que l'on voit sur d'autres événements que l'on visite, comme tu le soulignais, principalement sur un objectif de rencontre entre des startups et des investisseurs. Le networking, la levée de fonds est au cœur finalement de ce rendez-vous, de cette grande messe de Helsinki, en plus des conférences.
Exactement. Elles viennent pour, parfois elles participent à des mini conférences qui sont organisées et orchestrées pendant les deux jours sur les 4 stages, que ce soit sur le stage builder, c'est-à-dire on va parler aux startups par le biais des startups sur des cas d'usage qu'ils ont déployés et donc ils expliquent comment faire telle chose, comment passer par exemple du MVP à la production et puis à l'échelle, etc. Et donc là, on a ce type d'intervention. On en a quelques-unes aussi qui exposent, on va dire une centaine, qui exposent dans des tout petits carrés qui sont réservés à cet effet et qui leur permettent de pouvoir assez facilement, à travers un écran de télé et 2-3 petits trucs qu'ils ont, ils ont pu amener, montrer quels étaient les sujets de leurs innovations. Et puis, on a un startup studio qui est thématisé, c'est-à-dire pendant les 2 jours, thème après thème, énergie, décarbonation, je ne sais pas, moi, des tonnes de sujets, santé connectée, enfin santé tout court. Mais globalement, on est sur un moment qui est véritablement un moment pour les startups et les investisseurs, qui est un moment de partage, à la fois de partage d'idées, de partage d'intentions, de partage de visions. Et ça, c'est plutôt très, très enrichissant.
Alors, d'un point de vue macro, en tout cas, quels ont été les grands sujets? Je pense que l'intelligence artificielle a été présente, générative bien entendu, avec l'ensemble de ses penchants technologiques, mais aussi d'ordre d'impact social. Qu'est-ce que tu retiens, toi, d'un point de vue très macro, de cette édition?
On pourrait parler, comme tu l'as évoqué, forcément de l'IA, de la cybersécurité, etc. Mais on parle du Web3, on parle de tout ce qui est future of work, on parle de l'évolution des LLM au niveau de l'IA générative, on parle fintech, on parle de beaucoup, beaucoup de sujets qui sont vraiment entremêlés, et souvent tu les vois justement au travers de ces thématiques qui sont les thématiques des conférences, à la fois sur le Founder Stage où tu as des fondateurs qui viennent expliquer les problèmes auxquels ils ont été confrontés et comment ils les ont surmontés et comment ils se sont réorientés, parfois pour certains pivotés. Tu as une scène qui s'appelle l'Horizon Stage, et là on est plutôt dans de la prospective, on travaille sur de la prospective avec toujours pareil, à la base ceux qui interviennent ce sont des fondateurs de sociétés ou des CIO pour vraiment mettre du pratico-pratique face aux visiteurs qui sont là, qui sont donc massivement des start-upers. Globalement, on voit très bien que même le prix d'entrée est plutôt assez dissuasif, donc on ne vient pas à Helsinki juste pour regarder de belles démos, puisque finalement il n'y en a que très très peu, les plus gros stands étant occupés par soit les régions, alors ça peut être la France, la Hollande, l'Italie, la Grèce, ou des hyperscalers, ça peut être Amazon, ça peut être Google, ou des investisseurs, ça peut être Morgan Stanley, ça peut être des accélérateurs de projets comme des universités. Donc on voit bien que c'est pas là que tu vas voir des démonstrations, c'est là où tu vas vraiment pouvoir rencontrer ou écouter ou t'instruire ou t'informer, que ce soit au niveau des grandes tendances ou que ce soit au niveau de cas pratico-pratiques qui sont développés. Et puis, il y a forcément le slush 100, c'est-à-dire toutes les startups qui vont concourir pour savoir quelle sera celle qui sera élue la meilleure startup ou la meilleure idée de l'année sur le slush 2023. Donc ça, c'est aussi évidemment le point d'orgue et le fil rouge qui peut se dérouler pendant cette manifestation.
Alors naturellement, l'intelligence artificielle et plus encore l'intelligence artificielle générative a été au cœur de beaucoup de conférences avec une approche assez différente, pour ne pas dire opposé entre OpenAI d'un côté, son fameux ChatGPT, mais également Mistral AI. Alors entre propriétaire, écosystème open source, tous ces éléments, qu'est-ce que tu retiens finalement de ces deux convictions opposées ?
L'un des cofondateurs, c'est bon, Mistral AI, trois fondateurs, l'un qui nous vient de Meta et deux qui viennent de Google, ou le contraire, je crois, mais bon, bref, trois Français. À ce jour, hein, ils ont levé à peu près 400 millions d'euros à date. Hein. Ils ont été très vite à lever les 100 premiers millions d'euros et puis ils ont continué sur leur lancée. Donc, celui qui était présent, l'un des cofondateurs, a essayé d'expliquer la vision que eux avaient de ces modèles de langage qui, à la base, étaient en open source chez OpenAI, et que eux, après le revirement de modèle économique d'OpenAI et les investisseurs prestigieux et très fortunés comme Microsoft, eux restaient dans un modèle complètement open source pour donner la possibilité aux développeurs d'être vraiment en capacité d'aller au plus profond du code pour pouvoir améliorer le code source de leur LLM. Et à partir de là, avoir comme objectif d'avoir le meilleur code possible pour avoir la plus petite empreinte carbone possible, pour avoir la meilleure réactivité possible. Bref, quelque part, rester dans l'ADN de tout ce qui fait le développement informatique depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire le partage sur une communauté pour pouvoir optimiser le résultat informatique et pas forcément n'avoir en ligne de mire que la commercialisation et uniquement le business model profitable.
Ce que je note néanmoins, c'est que dans les différentes conférences qui ont eu lieu autour de l'intelligence artificielle générative, puisque c'est quand même le gros sujet du moment avec une excitation technico-médiatique sans précédent, c'est quand même que globalement, le barycentre de toutes ces conférences reste finalement la dimension humaine.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, on a pu en avoir le témoignage, même si c'est quelque chose que nous, on pressent que c'est un outil. On a eu le témoignage de... je vais essayer de prononcer son nom sans l'écorcher. Ovanès Avoyan, qui est le CEO et fondateur de Pixar, qui est la plateforme de text to image, qui compare la révolution de l'intelligence artificielle à celle de l'électricité, mais en gardant les pieds sur terre, c'est-à-dire en disant « attention, on est face à quelque chose qui est un outil, et cet outil, c'est un outil technologique, comme l'électricité est un outil, et ce que l'on fera avec dépend de nous et potentiellement dépend des différents contrôles que l'on opérera soit en amont, soit carrément par le législateur, mais que ce type de plateforme qui sont... motorisés par de l'IA générative, sont des copilotes, mais jamais des concurrents. Voilà. Alors, le terme copilote, aujourd'hui, il est un peu entre guillemets, pratiqué parce que c'est le mot clé, le mot générique que Microsoft a décidé d'utiliser pour intégrer copilote à toutes ses suites logicielles. Mais pour lui, le mot copilote, c'est le mot assistant, c'est le mot sous-traitant. Enfin, en français, on pourrait l'appeler comme ça. Et ce sous-traitant n'est absolument pas un concurrent. C'est ce que vous allez pouvoir faire. Alors, eux, dans le domaine de la création, ils disent « les créatifs ». Partent avec de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai eu l'occasion d'en croiser. Ils ont une idée un peu précise. Ils vont faire un prompt et puis ils vont aller chercher un certain nombre de résultats. Et de ces résultats, ils vont partir dans la création. À l'opposé du créatif, il va y avoir ceux qui ne sont pas des créatifs et vont utiliser l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, je faisais une présentation. Eh bien, j'ai utilisé l'intelligence artificielle en text to image pour pouvoir illustrer des slides. Bon, bah là, pour le coup, hein, il n'y a pas de droit d'auteur. On est sur un slide un peu généré de façon plus ou moins pertinente par rapport au prompt que j'ai posé. Mais globalement, on est sur de l'illustration et puis c'est ce que l'on a facilement en accès par rapport aux banques d'images que l'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que dans un certain nombre de métiers, notamment au niveau du marketing, on peut imaginer que ça va malgré tout retirer un certain nombre de boulot à certains illustrateurs, mais au niveau de la création pure, ça reste encore une fois un copilote, un assistant, un sous-traitant qui va permettre aux créatifs d'aller plus loin dans le domaine de la création en ayant un premier guide. Je crois même que toi, quand tu es en phase de création, parce que toi aussi tu crées, je crois, hein, c'est clair, tu l'utilises pour pouvoir te donner des pistes, des champs, et ça t'ouvre des portes, et puis de ces portes-là, tu pars en création. Tu ne fais pas simplement un copier-coller, c'est pas lire dans ce cas-là. Le titre du dialogue, hein, puisqu'à chaque fois, ce ne sont pas véritablement des conférences, ce sont des dialogues entre un journaliste ou un spécialiste d'un domaine et quelqu'un qui représente quelque chose dans ce domaine-là. Et là, pour le coup, avec le fondateur de Pixar, le titre de ce dialogue, le titre de cet entretien, c'était « Ce n'est pas l'IA qui prendra votre travail, mais c'est ceux qui l'utilisent ».
Après Jacques Lezourne et les étoiles, on va garder également cette citation dans notre catalogue, si tu veux bien. Il a été question de deux sujets quand même qui ont animé beaucoup de talks sur ce slush de Helsinki, qui ont été le spatial computing, donc cette capacité d'interagir avec des zéro UI interface directement dans des univers immersif, donc ça c'est quelque chose qui était assez marqué, mais également autour des neurosciences. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a des acteurs particuliers, des conférences particulières qui t'ont interpellé sur ces sujets?
Alors, sur le sujet du spatial computing, on est véritablement rentré dans Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est Apple qui donne le ton? On a tous parlé métaverse pendant à peu près une année et demie, il y a 2 ans, et puis ça s'est émoussé, on est passé à autre chose. Et quand Apple a fait son annonce de casque de réalité mixte, est revenue l'idée de se dire, mais qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour enrichir ces nouveaux dispositifs qui vont arriver probablement? Quels sont les autres wearables? Quels sont les dispositifs qui vont pouvoir se greffer avec les dispositifs type celui d'Apple? Pas forcément, Apple n'était pas forcément cité, mais on sent très bien qu'il y a là tout un environnement, tout un écosystème qui est en train de se créer, de la même façon qu'il y a eu un écosystème qui s'est créé autour des applications que l'on a dans notre smartphone. Et bien là, on sent qu'il va y avoir tout un écosystème qui va se créer autour des dispositifs de réalité mixte, que ce soit pour augmenter la relation, le retour haptique et toutes les sensations que l'on pourrait avoir indépendamment de celles qui sont classiques, c'est-à-dire la vue et l'audition, qui sont les éléments de base, mais aussi tout ce qui pourrait être ressenti au niveau des odeurs. Alors, on avait vu ça aussi au CES, mais on voit bien que là, c'était les balbutiements, et on commence à se dire que c'est l'évolution de la réalité augmentée dont on a beaucoup parlé, de la réalité virtuelle dont on a beaucoup parlé. Eh bien, tout ça va fusionner dans un énorme espace, écosystème qui va être le space computing, c'est-à-dire quelque part l'ordinateur de demain deviendra un ordinateur spatial. Alors, moi, j'ai quand même toujours le doute, hein. Alors, ça peut être, il y a des cas d'usage extraordinairement intéressants dans l'industrie, ça c'est évident, mais je n'imagine pas, moi, personnellement, je sais pas moi, un plateau en open space, où une quinzaine de collaborateurs ont tous un casque sur la tête pour pouvoir gérer leur quotidien.
Oui, alors rappelle-toi, hein, parce que quand on était au CES, alors ça devait être 2020, si je me trompe pas, on parlait déjà du Six Degrees of Freedom, qui était un des sujets de la capacité d'interagir dans des univers immersifs en ayant chaussé uniquement des gants ou par captation de tes mouvements par différents capteurs de ton environnement. Donc en fait, les choses sont pas forcément nouvelles, elles se tangibilise par de nouvelles solutions qui commencent à prendre forme. Et au niveau des neurosciences, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier?
Alors, au niveau des neurosciences, moi, je suis pas du tout un spécialiste. Donc, toi, tu t'y es toujours beaucoup intéressé. Mais moi, j'étais pas vraiment véritablement un spécialiste. J'avais été tout à fait intéressé par une conférence qui s'appelait le paradoxe de la déconnexion. C'est-à-dire l'idée d'arriver sur un environnement, de pouvoir créer un environnement qui est à la fois qui ne t'oblige pas à passer énormément de temps connecté et qui va être en capacité de te traiter l'essentiel de l'information de façon personnalisée. C'est Starstuff qui avait une conférence sur ce sujet et qui proposait un projet. Alors, le projet, pour l'instant, il est en développement, puisqu'on avait la roadmap qui s'affichait jusqu'en 2025, mais qui était de dire, on va essayer de remplacer cette connexion permanente par quelque chose qui va être complètement personnalisé et qui vous permettra de vous désintoxiquer de cette connexion permanente. Alors, tu vois, alors là, on est en marge peut-être, hein, de ce que tu pourrais appeler les neurosciences, mais on est quand même sur l'étude de l'impact de l'évolution de nos modes de vie. Et alors, même si on n'est pas dans la même thématique ou dans la même prospective que le South by Southwest, on est face à des développeurs d'idées ou de projets qui viennent essayer de convaincre, encore une fois, hein, les investisseurs sur des pistes de recherche, sur des pistes d'ouverture et de nouveaux projets et de nouveaux services comme celui que je viens de citer, qui sont assez fabuleux. Donc là, on se dit, tiens, on travaille là-dessus et c'est plutôt tout à fait encourageant. Maintenant, encore une fois, time to market, on en est très très loin.
Ah bah c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à traiter hein, sur ces sujets au travers des neurosciences, même si le précédent CES, hein, on a pu voir un produit sud-coréen assez abouti, Pola, qui est le patch frontal que l'on se colle hein, pour revenir dans des états de stress qui soient normaux en 45 secondes par agitation par onde électromyocyte, si je ne me trompe pas, du cortex frontal. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Bon, encore une fois, je suis en terrain vague au travers des neurosciences également, même si c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Si on s'intéresse au slush, en le comparant à l'IFA de Berlin, à Vivatech, à d'autres salons comme ces derniers, est-ce que tu dirais que c'est un salon qui est complémentaire, qui est nécessaire dans un cycle de veille? Quelle est ta perception finalement de ce salon par rapport à tous ceux que l'on visite annuellement?
Alors, je voudrais pas être méchant, mais si on n'est pas investisseur, si on n'est pas start-up, on peut, et ça c'est le niveau minimum, s'enregistrer, payer sa dîme, mais pas y aller, mais complètement suivre tout ce qui s'y passe, hein. Toutes les grandes conférences sont en ligne, a posteriori, elles sont toutes, alors vous avez des vidéos de 8 heures d'affilée sur tout ce qui s'est passé sur tel stage, etc. Vous avez un site internet qui est extrêmement bien fait avec toutes les startups qui sont présentes, et ça peut vous donner un outil de veille qui est tout à fait fabuleux. Par contre, pour ceux qui y vont, ah bah c'est un peu comme d'habitude, hein. C'est la préparation qui est importante, c'est-à-dire quelles sont les conférences qui m'intéressent tout particulièrement, quelles sont potentiellement les startups qui m'intéressent tout particulièrement à rencontrer et pour quelles raisons, et qu'est-ce que je veux faire après dans le cadre d'une collaboration future éventuelle. Et là, à ce moment-là, il faut y aller. Bon, on est ça, c'est évident. Mais pour celui qui veut simplement être dans la veille, bon, bah, il faut accéder aux outils dédiés aux visiteurs, mais ce n'est pas la peine d'aller se prendre trois jours de votre temps sur Helsinki. Parce qu'on ne verra rien. Ce que l'on voit, on peut l'avoir en replay, et ce que l'on peut, si on ne peut pas rentrer directement dans le dialogue de l'entreprise, eh bien on va directement sur le site internet. Alors évidemment, hein, c'est un peu light hein, comme idée, mais voilà. Par contre, une fois qu'on y est, on a fait le travail préparatoire, on a sélectionné les conférences par rapport à une thématique tout à fait précise que l'on comptait suivre, exactement comme tous les autres salons, parce que voir toutes les conférences, c'est pas possible, puisqu'il y en a forcément 4 en simultané. Et elles se succèdent à peu près toutes les 20 minutes, 30 minutes pour les plus longues. Donc, c'est juste impossible. Donc, ça veut dire que là, on se fixe des objectifs, et on se dit, bon, ben voilà, je vais assister à celle-ci, à celle-là. Et puis alors, les Finlandais sont probablement un peu comme les Suisses, ils sont extrêmement ponctuels. Quand la conférence doit commencer à 10h23, elle commence à 10h23. Hein. Donc, c'est ça, c'est assez précis. Donc, ça, pour le coup, c'est très efficace. Mais forcément, on a l'impression de passer à côté de beaucoup de choses et que le travail que l'on doit faire au retour pour faire une synthèse pertinente de ce qui a pu se passer autour des points clés que l'on a décidé d'aller observer, c'est un second travail qui est relativement important. Et ce travail-là, il aurait pu être presque fait en amont avec tous les outils que le slush met à la disposition des visiteurs qui ont payé leur entrée.
C'est vrai qu'il faut noter que le back-office du slush est extrêmement bien fourni en termes d'informations, composé de l'ensemble de l'historique presque économique, en tout cas au niveau des levées de fonds, et quels ont été ces fonds d'investissement par start-up, de pitch deck, de documentation technique. On parle d'intégration des technologies par rapport à leur sujet. On a énormément de données. C'est extrêmement nourri. Je dirais même que si on avait ça pour le CES, ce serait une belle réussite. Mais bon, c'est pas forcément l'objet parce que c'est bien différent. Tu l'as souligné. Donc c'est quelque chose qui était effectivement assez bien fourni et extrêmement précieux en termes d'informations. Au niveau des startups, il y en a une dans les rencontres que tu as pu faire avec Ruben de Future Agency qui t'a accompagné sur ce slush, une startup qui t'a marqué particulièrement.
Alors une, c'est compliqué, c'est difficile. Déjà il y en a une, c'est celle qui est incontournable, c'est Faire Cadado, c'est ceux qui ont gagné le slush 100. Eux, ils ont gagné. Alors, pour expliquer très très rapidement le pitch, c'est une société qui a créé une extension de nos navigateurs qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui va trouver automatiquement des options abordables pour un produit que l'on souhaiterait acheter. Plutôt que d'aller faire votre recherche, parce qu'on sait que le plus gros moteur de recherche après Google, c'est le moteur de recherche d'Amazon quand on cherche un produit, eh bien là, on va aller chercher des produits. Alors, il va scruter les sites d'enchères, les sites de vente de particulier à particulier, les sites d'entreprise, etc., pour essayer d'optimiser les différents produits pour essayer, encore une fois, de s'inscrire dans de la réutilisation, de l'usage multiple, une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie à un produit, et donc, quelque part, avoir comme objectif de diminuer les émissions de CO2, puisque d'une certaine façon, un produit qui a déjà été fabriqué, il a déjà son empreinte carbone de fabrication qui est derrière lui, et si tu le réutilises, voilà. Ben eux, on voit bien la thématique sur la décarbonation qui a poussé les juges à mettre cette start-up, qui est une start-up d'ailleurs allemande. Sinon, pour moi, puisque j'en ai vu quelques-unes, c'est une start-up aussi allemande qui s'appelle ToZero, T-O-Z-E-R-O, hein, voilà, et qui se propose de travailler sur le recyclage des batteries lithium-ion pour pouvoir aller réexploiter jusqu'à 95% des matériaux déjà utilisés. Et donc, encore une fois, c'est toute la difficulté que l'on a aujourd'hui avec probablement l'électrification massive que l'on va avoir dans les prochaines années, c'est comment électrifier massivement la planète alors que pour électrifier, on a besoin de ressources minières qui sont relativement rares ou relativement chères ou relativement localisées dans des pays parfois à conflit. Donc, une fois que l'on a extrait ces matières premières pour pouvoir faire un premier cycle de fabrication, le recyclage et la capacité que l'on a à recycler nos produits, et notamment ces produits qui seront ultra utilisés, notamment les batteries, eh bien, recouvrir et pouvoir réutiliser l'essentiel des matériaux qui la composent et leur donner une seconde, une troisième, une quatrième vie, va évidemment faire baisser l'impact dont on souffre quand on doit aller chercher en permanence encore du nouveau minerai pour pouvoir alimenter nos nouveaux dispositifs et nos nouvelles infrastructures. Donc voilà, tout zéro. Ça, c'était pour moi une start-up qui était très, très pertinente. Et puis, dans le même cycle, j'en fais une deuxième. Et puis après, j'arrête parce que sinon, il y en a plein.
Ça
Il y
fera
en avait
trois.
une centaine. Oui, ça fera
Ça
trois.
fera
Ouais,
trois.
c'est About Energy. Alors là, c'est une émanation d'une université anglaise qui a développé un outil qui permet de prototyper des batteries. Et donc de prototyper l'efficience des batteries. C'est-à-dire que quand on est aujourd'hui dans la recherche et développement de batteries pour pouvoir augmenter leur capacité de charge ou diminuer leur poids ou leur encombrement pour une même charge, enfin, c'est toujours le même problème que l'on essaye de. Aujourd'hui, la batterie dans une voiture prend un poids très important et donc une grosse partie de l'énergie qu'elle fournit sert à déplacer la batterie. Donc c'est évident que plus la batterie sera petite et légère pour une même capacité embarquée, une même capacité de stockage, ça sera meilleur. Eh bien, eux ont travaillé sur du prototypage virtuel de batterie pour pouvoir justement, pour les gigafactories, être en capacité d'aller optimiser au fur et à mesure leur dispositif de batterie. Alors, on ne parlait pas de batterie solide, hein, mais on est sur du prototypage virtuel, assez pertinent.
Et naturellement, j'aurais mis un billet de 500, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils existent encore, sur le fait que Lionel allait vous parler à un moment ou à un autre de batterie. Forcément, le dada de Lionel, c'est l'énergie et les batteries. Alors, je pense que c'est vrai, tu vas être encore une fois nourri. On se projette naturellement fin de semaine sur un épisode spécial CES, hein, dans lequel nous accueillerons Gilbert Réveillon, Olivier Laborde, encore Nathalie Louis, hein, qui viendront nous parler du CES. Il devrait sortir dès samedi un épisode dans lequel nous intervenons avec notre ami Jérôme Colombin et dans le monde numérique, un épisode spécial CES. Ne ratez pas également l'épisode spécial CES qui devrait sortir, lui, jeudi, celui de Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti en chef d'orchestre, notre ami canadien, qui est un explorateur de la tech depuis, oh là là, tellement longtemps que lui, l'historique du CES, c'est presque plus de 20 ans. Donc imaginez, ça va être encore un épisode et des épisodes absolument sympathiques. Merci à eux pour leurs différentes invitations. On se quitte maintenant en se retrouvant donc très vite pour le CES, parce que nous prendrons l'avion en fin de semaine avec un épisode donc préparatoire qui devrait arriver ce week-end comme nous vous l'avons annoncé. D'ici là, prenez soin de vous. On vous rappelle néanmoins que vous devez partager la bonne parole en vous abonnant ou en partageant ces différents épisodes, puisqu'Innovation and Prospective Talk ne vit quasiment de rien, puisque c'est tout simplement cette passion qui nous anime à parler et à vous partager finalement tout ce que nous voyons au quotidien sur tous ces grands salons internationaux de la tech et détecter les signaux faibles technologiques et leurs potentiels impacts sur la société, les êtres humains ou les organisations économiques que sont notamment les entreprises. Merci à tous de votre participation. Abonnez-vous et on se retrouve très vite. Salut Lionel, bye bye.
Salut.